Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat en direct, chacun de nos invités étant chez soi et nous-mêmes depuis la maison de Radio France. À l'ordre du jour ce soir, l'union nationale est-elle souhaitable? C'est en avril, en plein cœur du confinement, que le président de la République a laissé entrevoir son souhait d'une sortie de crise en forme d'union nationale après un remaniement qui devrait intervenir au lendemain des municipales. L'idée a été souvent brandie par des pouvoirs en difficulté depuis un siècle, mais très rarement appliquée. Et si cette expression est moins utilisée, à l'Élysée du moins publiquement depuis quelques semaines, elle ressurgit au détour d'une rencontre avec les anciens présidents de la République ou encore les responsables et représentants des assemblées. Mais bien des membres de l'opposition ont d'ores et déjà dénoncé une manœuvre avançant que la démocratie n'équivaut pas au consensus. Nous allons en débattre avec nos trois invités, l'historien Nicolas Rousselier, avec Samuel Ayat, politiste, et avec Anne Levat, professeure de droit public à Paris 1. Bonsoir à vous, Samuel Ayat.
Bonsoir.
Bonsoir, Anne Levad.
Bonsoir.
Et bonsoir à vous, Nicolas Rousselier.
Bonsoir.
Alors, cette idée d'union nationale, vous qui travaillez depuis longtemps, et en particulier avec La Force de gouverner que vous avez publié en 2015 chez Gallimard, sur ces questions de rapport de pouvoir entre pouvoir législatif et pouvoir exécutif en France, cette question revient au moins depuis un siècle, mais a été, comme je l'ai dit tout à l'heure, assez rarement mise en place de l'Union nationale.
Oui, alors ce qu'on peut dire tout d'abord, et c'est la chose la plus facile, c'est que le terme d'Union nationale est déjà très connoté. Je ne veux pas tomber dans trop de détails d'érudition, mais ça appartient surtout au vocabulaire politique, disons, de la Troisième République et peut-être de la Quatrième République. C'est un vocabulaire de type parlementaire. En gros, pour faire simple, on invoque l'Union nationale, par exemple au temps de Poincaré, quand on appelle à l'union, non pas de la totalité des partis, et je crois que ça c'est quand même intéressant à dire, mais l'union des centres. C'est-à-dire qu'en fait, on appelle en gros une coalition politique qui serait vraiment l'articulation du centre droit et du centre gauche.
Là, on est en 1914.
Oui. Enfin, Poincaré, là, je pensais à 1926,
bah, c'est ça. Donc,
après la défaite du cartel des gauches.
Voilà.
Voilà. Et de ce point de vue-là, le terme union nationale connote en fait l'échec parlementaire et politique d'une union des gauches. Mmh. Et la gauche préfère le terme de bloc, comme bloc des gauches, plutôt que union nationale. Donc, si vous voulez, chaque grande tradition politique française, la droite comme la gauche, a son vocabulaire pour signifier, en gros, qu'est-ce qu'on fait en période délicate, quel type de coalition fait-on, sachant qu'aucune des coalitions ne peut recouvrir vraiment la totalité du paysage politique.
Et pour cela, Anne Levad, vous qui êtes professeure de droit public et également présidente de l'Association française de droit constitutionnel, on ne peut pas faire courir ces notions d'union nationale ou d'union sacrée sur l'ensemble du spectre du XXe et du début du XXIe siècle, parce que les républiques ont changé. Et j'imagine que dans la république dans laquelle nous vivons, ça n'a pas le même sens, ou ça n'aurait pas le même sens que dans la Troisième République dont parlait à l'instant même Nicolas Rousselier.
Alors, c'est sûr que le fonctionnement politique de la Ve République, qui se caractérise durablement par le fait majoritaire, a conduit à ce que l'appel à l'Union nationale ne soit plus une nécessité d'un point de vue politique. C'est-à-dire que l'idée n'est plus de dire que pour créer les conditions d'une prise de décision politique, on a besoin de regrouper des partis politiques qui sont a priori adverses, puisque depuis 1958, il y a toujours eu un parti majoritaire, en général très majoritaire, à l'Assemblée nationale. Mais pour autant, je dirais que l'autre particularité de la Ve République, c'est qu'elle est associée historiquement à celui, le général de Gaulle, qui malgré tout a incarné à un autre moment l'Union nationale, pas dans les termes qui viennent d'être
évoqués. Pas en 1958, mais plutôt après la Seconde Guerre mondiale.
Mais cette image d'homme providentiel, elle correspond évidemment, malgré tout, à la même forme de mystique, je dirais, de l'Union nationale. C'est-à-dire que, même s'il avait des adversaires, il y avait quand même, en tout cas, il était lui-même, je pense, convaincu d'incarner une forme d'Union nationale.
Oui, avec la crainte, effectivement, de la division. Mais cette union nationale, elle ne va pas à tout le monde. On a bien compris Samuel Hayat, puisque Nicolas Rousselier disait que la gauche préférait d'autres termes que ce terme d'union nationale, qui avait été souvent utilisé par des forces politiques, disons, républicaines, centristes ou de droite.
C'est vrai, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que au-delà du terme union nationale, on est face à une sorte de mise en scène de l'unité, de mise en scène du pouvoir, qui n'est pas particulièrement propre ni à la Ve République, ni à la Troisième, ni à Emmanuel Macron, qui est vraiment au cœur de la construction de l'État. C'est-à-dire que même sur un long terme, si on remonte jusqu'à avant la Révolution...
Vous êtes spécialiste du 19e siècle, rappelons-le.
Voilà, je suis plutôt du 19e siècle, mais même en remontant avant. C'est de là que viennent les parlements, que viennent à l'époque les États généraux. L'idée, c'est de figurer l'unité de la nation, de figurer l'unité du peuple devant le roi. Cette image d'union, hein, d'union de la nation, n'a pas fondamentalement varié depuis la monarchie absolue. Si ce n'est que, voilà, on a des différences dans l'équilibre entre les pouvoirs, dans les modes de sélection des gouvernants, etc. Mais on garde cette idée d'union. Donc au fond, lorsque un dirigeant,
aujourd'hui,
un chef de l'exécutif, aujourd'hui, appelle cette unité nationale ou cette union nationale, il est en fait dans son rôle. Il n'est pas forcément dans l'idée de « on va aller au-dessus des partis », etc. Il est dans son rôle d'incarner l'unité. Mais évidemment, en disant ça, ça ne veut pas dire que ça ne pose pas un problème. Parce qu'évidemment, cet usage, même s'il prend place, s'inscrit dans une très longue histoire, cet usage de l'unité, lorsque c'est utilisé en l'occurrence par Emmanuel Macron, c'est bien pour faire taire de la contestation. Mmh. C'est pour faire taire la contestation, c'est pour empêcher le débat. Et ça, c'est évidemment quelque chose face auquel il y a des réactions, en particulier à gauche, mais pas uniquement. Mmh. Parce que là, je pense que c'est quelque chose de plus général, qui relève de la valorisation, hein, d'une idée de conflit face à cet imaginaire d'unité, cet imaginaire d'union nationale, qui en plus, nous l'oublions pas, est une union nationale. Hein. Le terme est important, c'est-à-dire qu'il se fait toujours d'une manière ou d'une autre par opposition à ce qui n'est pas la nation, à des ennemis extérieurs, à des ennemis intérieurs.
Oui, d'ailleurs, Brice Hortefeux a dit récemment que l'union nationale ne servirait que les intérêts d'Emmanuel Macron. Nicolas Rousselier.
Oui, je suis assez d'accord pour dire que si on prend les deux grandes traditions, la droite et la gauche, on peut dire, dans une forme un peu simple, si vous voulez, que pour la droite, l'Union nationale est un préalable. Dans certaines circonstances, c'est même une sorte d'injonction. Mmh. Tandis que pour la gauche, c'est une résultante. C'est-à-dire que pour la gauche, évidemment, on part de manière prioritaire de l'analyse des différences, inégalités et des conflits sociaux. Et s'il y a une possibilité d'union, elle est repoussée. Mmh.
À
plus tard et à la fin de l'histoire et à la disparition ou en tout cas à la diminution très forte de ces conflits sociaux. Pour la droite, moi je me rappelle quand je lisais les débats parlementaires de justement la Troisième République, on voyait par exemple que à certains moments, quand la droite proposait des votes, des scrutins sur justement le sens patriotique de l'Union, cet appel au patriotisme de tous, on voyait toute une partie de la gauche, je pense ici aux fameux radicaux qui faisaient la bascule à l'époque de la Troisième. Donc tous les radicaux se sentaient effectivement un petit peu contraints de voter avec la droite, par exemple pour le budget de la guerre, ce que les socialistes, eux, rejetaient. Donc on voit, si vous voulez, qu'il y a une sorte de surmoi qu'a utilisé pendant très longtemps la tradition de droite, qui était une manière de dire aux gens du centre-gauche, prouve-moi que tu es
patriote.
Et un bon pas.
Ah, on a quelques petits problèmes de décrochage avec votre liaison, Nicolas Rousselier. On a compris que c'était « prouve-moi que tu es un bon patriote ». Anne Levade, est-ce que, en tant que spécialiste de droit constitutionnel en particulier, vous pensez que cette question est une question tactique, pourrait-on dire, dans un moment critique, comme ça a souvent été le cas? L'appel à l'Union nationale intervient après le 6 février 34, intervient après la Seconde Guerre mondiale, intervient dans des moments comme cela, et parce que on ne peut pas faire autrement que de se dire, tiens, appelons à cette union pour pouvoir faire taire les oppositions et surtout avoir une cohésion plus grande entre les forces qui me soutiennent.
Alors, ce que je trouve particulièrement intéressant dans votre question, c'est l'idée d'appel à l'union. Parce que, en réalité, ça a été très bien dit, La nation, dans le cas français en particulier, elle est structurante, en tout cas d'un point de vue juridique et d'un point de vue politique, ne serait-ce que parce que nos républiques se sont construites aussi avec cette volonté d'un État unitaire, fort, qui était donc fondé sur l'idée de la nation. Donc finalement, l'idée d'union nationale, et à un moment donné, les uns et les autres, on a alterné union ou unité nationale, l'idée d'union nationale, elle est en quelque sorte pérenne, c'est vrai, depuis 1789. Mais ce qui change, ce sont les moments où on en appelle à l'union nationale, c'est-à-dire ces moments où l'on considère que les circonstances sont d'une gravité suffisante pour qu'on appelle, et là bien sûr le message est politique, pour que l'on appelle la classe politique, et je vais utiliser une formule bien connue, à faire prévaloir ce qui rassemble par rapport à ce qui différencie. Et donc, ces moments-là sont en général, bien sûr, des moments de crise, et en particulier au moment où un ennemi est identifié, et je pense bien sûr aux situations, j'allais dire, les plus simples, c'est-à-dire les situations de guerre. Et de ce point de vue-là, le message est forcément politique, mais il n'est pas politique au sens politicien, même si bien sûr on arrive à faire l'union nationale pourtant que l'on veuille qu'avec ceux qui sont le moins éloignés de soi.
Bien sûr.
Lorsqu'un dirigeant appelle à l'union nationale, il y a peu de chances qu'il arrive à rallier jusqu'à ses adversaires politiques les plus virulents. Mais cet appel, c'est bien sûr un moment de cristallisation en quelque sorte. Et si j'insiste sur les circonstances, c'est parce que, me semble-t-il, ça n'a de sens que de manière ponctuelle et temporaire. C'est-à-dire que l'appel permanent à l'Union nationale, forcément, discréditerait le message et pourrait, là, passer pour une manœuvre politique avant d'être l'intérêt véritable du pays.
Mais Anne Levade, on pourrait presque dire, avec un peu d'ironie, qu'on l'a eu, ce moment temporaire d'Union nationale, c'est le confinement. Pas de contestation, des gens qui étaient tous d'accord, en tout cas qui ont fait semblant de l'être et qui ont suivi les consignes gouvernementales. Donc, en parler après, c'est assez étrange parce que tout compte fait, on a bien eu ce moment où tout le monde a été uni nationalement autour d'une cause, d'un besoin, d'un désir de ne pas sortir de chez soi.
Oui, mais d'une certaine manière, l'union nationale, elle suppose aussi une part de sursaut, c'est-à-dire faire quelque chose. Et c'est là un peu le paradoxe du confinement et peut-être du coup aussi le paradoxe de la métaphore de la guerre qu'a utilisé Emmanuel Macron.
Bien sûr.
C'est que le confinement, c'est au contraire un moment de repli. Par exemple, un autre appel relativement récent à l'Union nationale, c'était celui lancé, je crois d'ailleurs qu'il avait utilisé la formule par François Hollande au lendemain des attentats de 2015. Et là, on voyait bien que l'on était dans une logique qui voulait manifester que la République était debout, les institutions étaient mobilisées et que nous n'étions pas abattus par ce qui venait de survenir. Évidemment, le virus est un, entre guillemets, ennemi, mais un ennemi d'un genre bien particulier face auquel la lutte ne peut pas prendre la même forme.
Samuel Hayat.
Oui, c'était... on a vu au moment de cette crise l'idée d'unité nationale utilisée en gros pour soi-disant ou pas, pour face au danger, faire que tout parle d'une seule voix, et cette voix étant exclusivement celle du pouvoir exécutif. On s'est retrouvé dans une situation où ont été suspendues les conditions de fonctionnement de la société civile, toute une série de mouvements contestataires qui étaient en cours ont été interrompus, le Parlement a vu son activité réduite à rien ou très peu, un peu forcé de s'aligner sur la seule voie de l'exécutif. Et puis, on s'est retrouvé dans quelque chose qui est très problématique d'un point de vue démocratique, c'est que aucune solution n'a vraiment été débattue. C'est-à-dire que à chaque étape, le président de la République ou le Premier ministre expliquait, voilà, on a un comité scientifique autour de nous, d'ailleurs qui ne reposait absolument pas sur les formes institutionnelles de santé publique, mais qui était purement un comité ad hoc. Et nous avons pris les seules bonnes solutions. Et du coup, il n'y a pas de discussion.
Des discussions, ça, débat, oui.
Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. Or, évidemment, la démocratie suppose toujours la contradiction, le conflit, une certaine indétermination, le fait qu'il y ait des choix à faire. Et de ce point de vue-là, lorsqu'on sort de ce moment de confinement, et où donc cet usage, on va dire, un peu autoritaire de la situation par le gouvernement et par le
président... Mais consenti, lorsque, a priori.
Consenti. Mais que cet usage n'est plus possible, bah, qu'est-ce qu'on voit? Un retour du conflit, avec tout de même une des manifestations antiracistes, en plus quasi spontanées, les plus importantes de ces dernières décennies, hein, avec des dizaines de milliers de personnes qui se rassemblent devant le tribunal de grande instance quelques jours après la sortie du confinement. Et évidemment, là, la tentation est très grande pour faire taire cette contestation de reprendre et de manier, hein, ce vocabulaire de l'Union nationale qui a si bien marché pendant le confinement. Et je vais en prendre un exemple.
Brièvement, je vais donner la parole à Nicolas Rossi, sur
un exemple qui nous touche, nous, en tant qu'universitaires. Il y a une grande contestation actuellement d'une loi de recherche que Emmanuel Macron et Frédéric Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, essayent de faire passer en force, la LPPR, la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, qu'ils essayent de faire passer en force avec un très très court calendrier. Il y a des tensions, il y a des contestations. Qu'est-ce que dit Macron? Eh bien, Macron accuse le monde universitaire. Il dit le monde universitaire a été coupable. Il parle là en l'occurrence de questions raciales, hein, de questions des luttes contre les violences policières racistes. Et il dit les universitaires ont cassé la République en deux. Et donc on a très exactement, dans un moment de contestation, dans un moment de retour des tensions, dans un moment où les divisions qui jusque-là étaient invisibilisées pendant le confinement, dans le moment où ça revient et où ça commence tout simplement à contester de partout, ce qui est normal dans une démocratie, ce qui est productif, ce qui est utile, ce qui est fécond dans une démocratie, eh bien Macron essaye de rejouer l'idée de l'unité de la République contre, alors, les méchants antiracistes ou bien les méchants universitaires qui veulent casser la République en deux.
Nicolas Rousselier, vous qui avez travaillé depuis longtemps sur justement la longue durée, sur ces rapports entre pouvoir exécutif, pouvoir parlementaire, vous dites depuis peu de temps, d'ailleurs, je crois l'avoir lu sous votre plume récemment, après avoir travaillé pendant longtemps sur cette question, que le président serait presque embarrassé de sa force, de plus en plus embarrassé de sa force aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au bout du compte, il serait encombré par ce pouvoir qui lui est dévolu par la Constitution et peut-être, au bout du compte, par cette absence de débat parlementaire dont parlait à l'instant Samuel Hayat et en même temps cette contestation que l'on ressent dans la rue depuis maintenant plus de 2 ans.
Oui, je crois que la période du confinement en donne un bon exemple. C'est-à-dire que la période du confinement, comme ça vient d'être dit, ça a été un vaste switch-off. On éteint la lumière, on se confine. Et jamais on a autant prouvé, effectivement, la force de gouverner dans le début de la période de confinement.
Bien sûr.
Mais d'ailleurs dans les deux sens, c'est-à-dire un confinement pour l'exercice concret des libertés, à commencer par la liberté de se déplacer, mais aussi dans le deuxième sens, à savoir qu'il y avait la protection de l'État-providence et on pense à toutes les mesures qui étaient prises, par exemple pour le chômage partiel, etc. Mmh. Mais d'un autre côté, et là je crois que je serais peut-être en désaccord un peu avec Samuel...
Hayat. Vous
Hayat.
Serez... Oui. On vous entend plus, Nicolas Rousselier. On a un problème de liaison. On va essayer de vous retrouver peut-être au téléphone allez-y.
Oui, pardon. C'est une période pendant laquelle les critiques dans les médias, dans les journaux, et Dieu merci, hein, je conteste évidemment pas, ont été tout à fait importantes. Pourquoi? Parce que, en même temps que sa force, le présidentialisme, face au virus, dans les différents changements de stratégie, se montrer au grand jour et était en quelque sorte à nu, à découvert,
comme on pourrait
dire, en stratégie militaire, et en étant à découvert en termes de processus de décision et en changeant plusieurs fois son fusil d'épaule, il a montré, si vous voulez, à nu, en fait, quelque chose qui est tout à fait classique, à savoir qu'un pouvoir de décision, il n'a pas la science infuse, c'est Clausewitzien, il est dans le brouillard de la guerre, et en fonction des circonstances, il s'adapte. Et ce qu'on a vu dans la période actuelle, c'est à la fois la très grande force de l'État, mais aussi la très grande faillibilité du gouvernement. Le rapport à l'État n'est pas la même chose que le rapport aux politiques, de ce point de vue-là.
Effectivement, on l'a pu le mesurer, effectivement, avec ce recours au discours scientifique, Anne Levade. Et vous qui êtes constitutionnaliste, est-ce que vous avez pensé que ce moment particulier qui se déroulait à ce moment-là, c'était aussi un moment où le pouvoir était à la fois fort et fragile, comme vient de le dire Nicolas Rousselier ?
Oui, bien sûr, parce que je crois que la particularité de la crise qu'on vient de vivre, si je parle uniquement de la crise sanitaire, c'est justement qu'elle touchait la question de santé et une maladie que personne ne connaissait, un virus que personne ne connaissait, pas même les médecins et les scientifiques, et que, à la différence, par exemple, de la stratégie militaire qu'un chef de l'État va mettre en œuvre sans présenter auparavant au public les discussions qui peuvent avoir lieu dans le cadre de tel ou tel comité préparatoire, eh bien là, il n'avait pas cette possibilité. Parce que je pense que tous les chefs d'État, d'ailleurs, pas uniquement dans le cas français, tous les chefs d'État étaient confrontés à cette incertitude absolue sur... D'une part, je reprends la métaphore, l'ennemi qu'il combattait, et donc sur les moyens adaptés pour le combattre. Et d'une certaine manière, la fragilité a été d'autant plus palpable que les différents chefs d'État se sont, avec des manières différentes, mais abrités derrière les experts. Et ça a qui plus est révélé que au sein des experts même, il y avait des dissensions qui étaient extrêmement fortes, pour ne pas dire des débats et des polémiques auxquelles on a assisté en direct. Donc je pense que c'est la nature même de la crise qui a mis au jour cette fragilité. Mais j'ai le sentiment que la fragilité, elle existe en réalité sur tous les sujets. Aucun chef d'État, même s'il a sa propre conviction, ne peut assurer que telle réforme économique, telle réforme sociale va produire les effets qu'il cherche à atteindre.
Mais néanmoins, on voudrait y croire. Une partie de l'opinion publique voudrait y croire parce qu'il voudrait croire que le pays est dirigé justement et que donc on a
alors,
des solutions.
C'est tout le pas. J'ai presque tendance à penser que c'est une des manifestations ou une des conséquences, j'allais dire, de la crise de confiance que nous vivons aujourd'hui. Ça a toujours été le cas. C'est-à-dire que quand un politique se présente à une élection et donc présente son programme, il fixe des objectifs et il explique comment il entend y parvenir. Pendant longtemps, hors les cas où ils parvenaient aux objectifs par les moyens qu'ils avaient annoncés, pendant longtemps, on avait une forme d'indulgence parce qu'on pouvait considérer que le contexte, les événements, la conjoncture n'avaient pas été favorables. Et c'est vrai que depuis une quinzaine d'années, j'ai le sentiment que, sans doute parce que les citoyens sont mieux informés, les attentes sont beaucoup plus fortes et donc il y a une recherche de résultats. Pas juste des politiques qui démontreraient qu'ils ont mis en œuvre tous les moyens, mais que malheureusement, on n'a pas réussi à l'atteindre. Et je pense que ça participe du discrédit du politique qu'on connaît encore une fois en France, bien sûr, mais à peu près dans toutes les démocraties, parce que finalement, ce qui souvent est reproché aux politiques, c'est de dire « vous ne faites pas ce que vous avez dit, vous nous avez fait des promesses et vous ne les avez pas tenues ». Et je pense que c'est vraiment une évolution, une plus grande information aussi des citoyens qui sont mieux armés pour comprendre, mais qui surtout suivent en temps réel les réformes qui sont menées et qui donc ont le sentiment que ça n'aboutit jamais à ce qu'on leur a promis.
Vous écoutez Le Temps du débat, l'Union nationale est-elle souhaitable, avec Anne Levade, Nicolas Rousselier et Samuel Hayat.
France Culture, Le Temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Coming through a hole in the air from those nights in Tiananmen Square. He It's coming from the field. This ain't exactly real. Oh, it's real, but it ain't exactly there. From the wars against disorder, from the sirens night and day, from the fires of the homeless, from the ashes of the gay. Democracy is coming to the USA. It's coming through a crack in the wall, on a visionary flood of alcohol, from the staggering account of the Sermon on the Mount, which I don't pretend understand it all. It's coming from the silence on the dock of the bay, from the brave, the bold, the battered heart of Chevrolet. Democracy is coming to the USA. It's coming from
Démocratie, un titre des Lumineers dans cette émission du Temps du Débat. L'Union Nationale est-elle souhaitable, avec Anne Levat, professeure de droit public à l'Université de Paris, implantée en Sorbonne, présidente de l'Association Française de Droit Constitutionnel, avec Nicolas Rousselier, historien, auteur entre autres de La Force de gouverner le pouvoir exécutif en France, et avec Samuel Hayat, politiste, chargé de recherche au CNRS, au CERAPS, et qui travaille sur l'histoire et la théorie de la représentation politique. Vous êtes auteur de Démocratie, paru en février 2020 chez Anamoza. La démocratie, ça n'est pas forcément la République. On nous l'avait déjà dit, en particulier Jacques Rancière, il y a quelque temps.
Non, clairement, il y a là une différence, et c'est pas un hasard si, justement, quand on pense unité nationale, union nationale, on pense plutôt à l'union de la République, car la démocratie, dans son cœur même, hein, c'est le pouvoir du démos, donc le pouvoir d'une partie du peuple, puisque le démos, c'est le peuple, mais le peuple aussi en un sens social. Et c'est ça qui fait que, d'un point de vue démocratique, il y a toujours une certaine méfiance vis-à-vis d'union, parce que toute l'idée, c'est que la société est divisée. Elle est divisée par des conflits de classe, elle est divisée par des conflits de genre, par des conflits de race, elle est divisée par des relations de domination. Et tout le travail de la démocratie, tout ce qui fait le travail de démocratique en tant que tel, c'est de politiser ces divisions. Et face à cela, politiser ces divisions, c'est-à-dire de leur donner une visibilité, de pouvoir les mettre en débat. Et de ce point de vue-là, tout ce qui va dans le sens d'une unité, surtout lorsque l'unité est faite par en haut, par un discours gouvernemental sur l'unité nationale, c'est quelque chose qui est un peu dangereux, parce que ça vient masquer ces divisions-là. Mais ça ne veut pas dire que l'unité n'est qu'un fantasme des puissants. C'est-à-dire que même si en démocratie il y a de la division, il y a du conflit, l'unité c'est aussi un moyen de mobilisation. Hein. C'est ce qu'on a vu dans les soulèvements populaires. On a une volonté...
C'était le nom du journal du Parti Socialiste à une époque, l'unité, et l'unité des luttes faisait partie effectivement des slogans qui étaient souvent repris dans les manifestations de gauche, par exemple.
Et c'est exactement ça. Et donc c'est cette dialectique qu'on voit en permanence dans la pensée gauche, dans la pensée de gauche, dans la pensée socialiste, notamment entre la reconnaissance et la politisation des divisions, et notamment des divisions de classe, et puis la perspective à terme, l'horizon utopique, si vous voulez, de la démocratie, qui est celle d'arriver à une société sans classe, d'arriver à une société sans domination, et donc d'arriver à l'unité. Et donc on peut pas dire que bon, l'unité nationale serait uniquement un discours de gouvernant. En fait, le discours de l'unité est toujours, du moment qu'il est mis en perspective, qu'il ne vient pas masquer des conflits et qu'il ne vient pas masquer les divisions existantes, il a quelque chose de productif. Le problème, c'est que lorsque c'est dans le langage du pouvoir, l'appel à l'union nationale est toujours un appel à éliminer les contestations, invisibiliser les divisions, et ça c'est évidemment très dangereux d'un point de vue démocratique.
Anne Levad, on a eu un exemple d'unité, cette convention citoyenne qui s'est tenue jusqu'au week-end dernier, qui a fait 150 préconisations avec la possibilité ou non d'en faire un référendum. Vous êtes élevé avec Bastien François dans Le Monde il y a deux jours contre cette idée d'un référendum sur les propositions de la Convention citoyenne, parce que justement, ça complique le jeu démocratique, ou ça complique, selon vous, le jeu des institutions dont parle aussi, et je lui donnerai la parole après vous, Nicolas Rousselier.
Non, ce contre quoi nous nous sommes élevés avec Bastien François, c'est l'idée d'un référendum qui serait consultatif. Alors je m'explique. Il y a une constitution, et cette constitution prévoit les hypothèses dans lesquelles on peut recourir au référendum. Alors je vais prendre quelques exemples. La constitution impose que le référendum ne soit organisé que sur un projet de loi, donc un texte élaboré par le gouvernement, qui pourrait reprendre les propositions de la Convention citoyenne, là n'est pas le problème, mais dans certains domaines. Si par exemple vous prenez la proposition relative à l'écocide, c'est-à-dire la reconnaissance d'un crime contre l'environnement, eh bien ça n'est pas faisable en vertu de la Constitution par le biais d'un référendum, parce qu'un écocide, ce serait créer un nouveau crime et que la matière pénale ne fait pas partie de celles qui peuvent être traitées par référendum. Donc la conséquence, c'est que si on organise un référendum sur ce sujet-là, il ne sera pas décisif. C'est-à-dire qu'on ne mettra pas aux voix un texte, on consultera le peuple. Et notre inquiétude, c'est évidemment qu'il y ait une confusion des genres. C'est-à-dire que j'entends bien, y compris d'ailleurs des membres de la Convention citoyenne, qui réclament par exemple un référendum à choix multiples, en disant faire répondre oui ou non, c'est prendre le risque que le non l'emporte. Mmh. C'est un argument bien connu, c'est d'ailleurs ce qui freine un certain nombre de gouvernants lorsqu'il s'agit d'organiser un référendum. Bien sûr. Mais telles que les choses, là encore, sont prévues par la Constitution aujourd'hui, il s'agit d'approuver, oui ou non, un texte. Et donc, l'idée du choix multiple ne pourrait être que consultatif, c'est-à-dire une espèce de gigantesque sondage à l'échelle de l'ensemble du corps électoral français. Et c'était plutôt une mise en garde. Il s'agit pas là ni des propositions sur le fond, ni de l'association par d'autres biais des citoyens à la prise de décision, simplement de ne pas avoir l'illusion d'un référendum qui n'est en l'état pas constitutionnellement organisable.
Est-ce que, Nicolas Rousselier, cette convention citoyenne ne complique pas encore justement cet échafaudage institutionnel dont vous tracez l'histoire dans La Force de gouverner, et donc ces rapports entre un gouvernement, un président de la République, un parlement, des chambres donc élues, et aussi cette convention citoyenne, donc complexifiant les questions justement qui permettent à le gouvernement d'un pays comme la France. Nicolas Rousselier.
Oui, alors pour le lier au thème de notre discussion, sur l'Union. C'est vrai qu'un référendum a été historiquement des moyens de renforcer le pouvoir exécutif, et on pense au premier référendum à tendance plébiscitaire qu'utilisait De Gaulle. Ceci dit, le reste du temps, et surtout dans la période actuelle, je pense que ce type de référendum serait plutôt une sorte de économie de travail. Passer tout de suite à une forme de référendum après le travail de la Convention citoyenne me semblerait faire l'économie d'un travail politique de délibération. Autrefois, ça appartenait aux partis politiques quand ils existaient encore, mais ça peut appartenir aujourd'hui à l'ensemble de la sphère publique. Donc attention à ne pas passer directement, comme s'il y avait besoin d'une rentabilité, un retour sur investissement immédiat, passer directement de propositions qui sont lancées dans les médias et à un référendum. De ce point de vue-là, ça ne serait pas du tout un facteur d'union. Pour revenir un petit peu sur ce thème de l'union, moi je dirais que cette union, elle a aussi historiquement deux grandes références avec la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et on voit que par rapport à la question de la guerre, les choses peuvent être très différentes. La première union, l'union sacrée, avait commencé très fort en termes d'union, et ensuite c'était délité puisqu'il y avait eu la rupture de l'union sacrée en 1917. Avec la Deuxième Guerre mondiale, c'est exactement le contraire. En fait, ce que fait le général de Gaulle le 18 juin, c'est pas un appel à l'union, c'est pas un rassemblement, c'est pas encore le gaullisme du rassemblement, c'est un appel, si je puis dire. Un appel à ne pas être tout seul. Et comme vous le savez, la construction va être très laborieuse pour rallier un à un pratiquement les militaires, les officiers et quelques politiques. Et c'est seulement en résultante, à la fin de la guerre et de l'occupation, qu'il y a une union on peut dire une union nationale avec le GPRF, le gouvernement provisoire, ou le Conseil national de la résistance. Mais là encore, la guerre a tous ses effets, puisque cette union, pratiquement le seul moment dans l'histoire de notre pays où on a une union digne de ce nom, elle ne dure pas, puisqu'il y a une nouvelle guerre qui apparaît avec la guerre froide et le fait que les ministres communistes vont quitter le gouvernement dirigé par De Gaulle. Donc l'union, comme le disait Madame Levade, dans son histoire, l'union nationale, c'est effectivement le moment où, d'une certaine manière, la démocratie rencontre quelque chose de plus grand qu'elle, ou de plus d'une nécessité qui la dépasse, pour le meilleur comme pour le pire, et on pense à la guerre. Et c'est pour ça que, dans une réflexion sur le moment présent, moi, ce qui me gêne le plus, finalement, dans l'union nationale, c'est plutôt l'adjectif, c'est le terme national. Je m'explique, c'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, les conditions par lesquelles on peut penser, le simple citoyen peut penser union, est-ce que ça passe par la case nationale ? Sur le terrain, par exemple, de l'environnement, sur le terrain de la sortie de crise financière économique qui s'annonce, je pense que l'échelle Europe, l'échelle monde, est beaucoup plus pertinente. Donc ce qui est en crise aujourd'hui, plus encore que le terme d'union, c'est l'adjectif de national.
Et donc vous pensez effectivement que, comme vous le dites, le président encombré de sa force tente peut-être d'aller chercher justement dans ce passé glorieux des guerres de quoi la renforcer, cette force, ou en faire un outil politique, mais peut-être en utilisant un adjectif qui ne convient pas à la situation actuelle, Nicolas Rousselier.
Oui, le même président est aussi actif sur le terrain de l'Union européenne, toujours avec le couple franco-allemand. Donc, c'est vrai.
On vous a perdu momentanément, Nicolas Rousselier. Est-ce que vous êtes avec nous? Malheureusement, vous n'êtes plus avec nous. C'est un problème de liaison. Samuel Hayat, vous êtes d'accord avec ce que nous dit à l'instant même Nicolas Rousselier, c'est-à-dire que cet adjectif, j'imagine, ne correspond plus à l'époque d'aujourd'hui?
En fait, il n'a jamais correspondu. Ou plus exactement, ce que je trouve très, très fort et très juste dans ce que dit Nicolas Rousselier, il retrouve là quelque chose qui est au cœur de l'invention, notamment qui est au cœur de la pensée révolutionnaire, et notamment du marxisme, et puis avant même le marxisme, ou au-delà du marxisme, de l'internationalisme. C'est quoi? C'est de dire qu'au fond, ce qui est reproché à l'idée d'union nationale qui s'impose au XIXe siècle, et notamment au moment de la révolution de 1848, on a vraiment cette idée d'une France unie, de la fraternité, et vraiment d'une disparition complète des oppositions, ou d'une invisibilisation des oppositions de classe, mais aussi du maintien de l'exclusion des femmes, mais aussi du maintien de l'entreprise coloniale, puisqu'on est au moment de la colonisation de l'Algérie en 1848. Donc, on a ce qui est reproché par Marx, et ce qui est reproché par les socialistes à cette idée d'union nationale, c'est non seulement de venir invisibiliser les divisions, mais c'est aussi de mettre l'unité au mauvais endroit. Parce que l'unité, elle doit se faire non pas sur des bases nationales, non pas sur des bases d'appartenance, mais elle doit se faire sur la base d'une condition vécue identique, qui est celle des travailleurs, qui est celle du prolétariat. Et c'est en ce sens-là que l'unité que propose Marx et que propose le socialisme est une unité d'un ordre différent, qui est une unité de classe. Et de la même manière, aujourd'hui, l'unité qu'il y a à construire n'est évidemment pas une unité sur des bases nationales, comme le disait Nicolas Rousselier, mais est une unité sur des bases bien plus larges, mondiales, de l'humanité tout entière.
Merci beaucoup Samuel Hayat, merci à Nicolas Rousselier, malgré les difficultés, pour pouvoir entendre ces derniers propos, et merci à vous Anne Levade d'avoir été avec nous pour cette discussion autour de l'union nationale est-elle souhaitable. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Manon Prissé, Fanny Richer, Rémi Bay, Hugo Boursier, Jean-Guilain Meige à la technique et Olivier Bétard à la réalisation. Et puis je vous engage à aller lire La Conversation mondiale, la dernière qui a été publiée, celle de Youn Amaret, que vous avez pu écouter dans l'émission de lundi sur le monde d'après, et elle s'intitule Demain, un monde à créer. Youn Amaret, qui était une de nos quatre invitées, c'est sur le site de France Culture à la page de La Conversation mondiale.